C'est maintenant et c'est pour vous sur Radio Nîmes 92.2.
Amis auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, un coup d'État réussi, oui, mais après, Louis-Napoléon a des projets. Malgré tout cela et malgré une foule énorme qui avait crié « Vive la République » sur les boulevards, tout resta calme, les magasins restèrent ouverts, les théâtres maintinrent leurs représentations. On procéda toutefois à l'arrestation de 26 642 personnes. En définitive, le peuple qui ne regrettait pas cette République bancale n'avait pas suivi, et un véritable plébiscite valida la mandature de 10 ans comme président de la République par un score sans appel de 7 430 000 voix, pour 640 000 contre. Cela n'empêcha pas Louis de museler la presse en décrétant que désormais les journaux ne pouvaient rendre compte des débats parlementaires et des procès qu'en dupliquant les comptes rendus officiels. Les images étaient également censurées, les caricaturistes étant à la fête avec le physique du futur empereur. Entre mars 1852 et juin 1853, ce sont pas moins de 91 avertissements qui seront délivrés par le ministre de la Justice Maupas. Avertissement qui entraînait une suspension de parution, voire une suppression du journal en cas de récidive. Tandis que notre voyageuse du Havre pensait que son heure était arrivée, son prince avait une autre préoccupation, celle de se constituer à présent un harem peuplé de beautés orientales, et son envoyé pour ce faire en rapporta une maladie incurable. Louis-Napoléon quitta l'Élysée et s'installa aux Tuileries, fit frapper monnaie et revêtit sa garde personnelle d'uniformes impériaux. Henriette se fit fabriquer un lit, copie de celui de Joséphine, et commença à se comporter comme une maîtresse des lieux, imposant sa présence lors de défilés, comme à l'opéra, et s'offrant le château de Beauregard. Mais Louis-Napoléon ne se décidait pas à l'épouser. Alors elle se pointa aux Tuileries un soir de gala, et cette audace devait coûter à notre Anglaise ses rêves de grandeur. L'entourage proche du prince profita du fait que ce dernier était furieux contre Miss Howard pour avancer ses pions, susurrant aux oreilles princières qu'il était temps de convoler avec une vraie princesse et de fabriquer un descendant. Rapidement, il s'avéra que les cours princières sollicitées déclinaient la proposition d'union de leur princesse, qu'il se fût agi de Caroline Vasa puis d'Adélaïde de Hohenlohe. Henriette n'était quant à elle dans la ligne de mire de Louis-Napoléon que comme maîtresse. Et il avait en tête une jeune femme de 27 ans, dont la mère Manuela, héritière de l'Écossais Kirkpatrick, négociant en fruits et vins fins, était réputée avoir la cuisse légère. Le père était un ancien officier de l'armée napoléonienne. Il portait le patronyme interminable de Cipriniano, Guzman, Palafox y Porto Carrero, mais également le titre de comte de Teba dans la province de Malaga et de Montiro en Estramadure. La comtesse Volage était venue à Paris avec ses deux filles, et reçut dans son salon Prosper Mérimée, devenu son amant, et Bayle, un gros homme dont les récits évoquant les batailles de Napoléon émerveillaient les fillettes assises sur ses genoux. Pour elle, et plus particulièrement pour celle qui avait sa préférence et qu'il surnommait Eukenia, il vint chaque jeudi compter la geste napoléonienne et signa même un ouvrage à son intention. La fillette, âgée alors de 14 ans, et sa sœur Paca, s'en retournèrent en Espagne en 1839, leur père étant décédé, au grand désespoir du conteur et écrivain qui garda toutes ses lettres et mourut 3 années plus tard sans avoir revu sa muse. Stendhal disparut donc en 1842, tandis que Eukenia, du haut de ses 14 ans, menait à présent une vie de garçon manqué, chevauchant sans selle, nageant comme un homme et pratiquant l'escrime, rêvant de mener une vie sur les routes en compagnie de brigands. À 16 ans, elle était la coqueluche des mâles madrilènes. Tandis qu'il fantasmait sur sa silhouette et ses courbes, Eukenia, elle, travaillait à démêler au plomb sa superbe chevelure d'un léger roux et finit par en devenir blonde. Délivrée soudain de ce qu'elle considérait comme une tare, elle devint provocante, dansant en public en pointant ses seins et en se déhanchant tout en retroussant ses jupes. L'adolescente incendiait les esprits des sous-officiers avantageux, rêvant de culbuter Eukenia, plus connue sous le nom de Eugénie Marie de Guzman, comtesse de Teba. Eugénie et sa sœur Paca se consumèrent bientôt pour un cousin de 21 ans, le duc d'Albe, qui hésitait entre les deux, mais finit par demander la main de Paca l'aînée, à la demande de la mère, et au désespoir d'Eugénie qui regimbait et se fit frapper par la comtesse. Eugénie, au désespoir, tenta le suicide et envisagea de se retirer d'un monde qui ne l'intéressait plus. C'est alors qu'une voyante lui prédit qu'elle monterait très haut et vivrait 100 ans et finirait dans la nuit. Pour une future impératrice qui allait nous quitter à 94 ans, ce n'était pas mal vu.
On se parle, on partage, on comprend, on apprend, on se détend. Radio Nîmes.
Destinés, on était tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer, à s'aimer sans demander pourquoi. Toi et moi, destinés, inutile de fuir ou de lutter, c'est écrit dans notre destinée, tu ne pourras pas y échapper. C'est gravé, l'avenir, malgré nous, doit toujours devenir tous nos désirs d'amour inespérés, imaginés, inavoués. Dans la vie, aucun jour n'est pareil, tu t'ennuies, tu attends le soleil impatiemment, éperdument. Passionnément destiné, depuis longtemps j'avais deviné qu'à toi l'amour allait m'enchaîner. Quand je rencontrerai quelque part ton regard destiné, où es-tu toi qui m'es destiné? Si jamais vous vous reconnaissez, je voulais vous entendre crier, m'appeler. L'avenir, malgré nous, doit toujours devenir tous nos désirs d'amour inespérés, imaginés, inavoués. Dans la vie, aucun jour n'est pareil, tu t'ennuies, attends le soleil impatiemment, éperdument, passionnément. Je suis un clown démaquillé, le grand rideau vient de se baisser sur l'été destiné. On était tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer, à s'aimer sans demander pourquoi. L'avenir, malgré nous, doit toujours devenir
L'inconsolable génie survécut au mariage de sa sœur avec le duc d'Albe et flirta bientôt avec d'innombrables soupirants, distribuant des coups d'éventail à ceux dont les mains devenaient baladeuses. Du duc d'Aumale à Ferdinand de Lesseps, tous tentèrent leur chance, en vain. Soudain, elle fit la connaissance du neveu de Louis-Napoléon en poste d'ambassadeur à Madrid, le frère de la reine Mathilde qui avait failli épouser Louis, mais que la tentative de putsch de Strasbourg avait dissuadé de convoler avec le conspirateur. Ce neveu ambassadeur, qui répondait au sobriquet de Plomplon, plaisait fort à Eugénie qui avoua au diplomate qu'elle était prête à convoler. Ce dernier écrivit illico à Louis-Napoléon pour lui faire part du projet de mariage et reçut une réponse liminaire, lui précisant que Mademoiselle de Montijo était de ces filles avec qui on couche mais que l'on n'épouse pas. Abandonnée par son soupirant, Eugénie, fort dépitée, partit se changer les idées en compagnie de sa mère. Elles descendirent à Spa, où le duc d'Osuma, qui avait par le passé goûté au charme de la mère, courtisa la fille, mais leur flirt n'empêcha pas Eugénie de planter là son soupirant pour s'installer à Paris avec sa mère, qui ne la quittait pas d'une semelle, car le temps passé, il fallait caser Eugénie avec un parti à la hauteur de la beauté de l'Espagnol. C'est encore une fois Mathilde qui fut à la manœuvre pour entraver les projets de Miss Howard en organisant la rencontre entre Eugénie, âgée de 27 ans, et Louis-Napoléon. Ce dernier, en évaluant le physique de la jeune femme, entreprit toutes les tactiques pour la glisser dans son lit, de la main baladeuse qui se prit un coup d'éventail, à l'envoi de son traité d'artillerie en passant par des invitations à des balles. La belle lui avait signifié qu'on arrivait jusqu'à chez elle en passant par la chapelle. Et toutes les ruses de Louis n'y purent rien, elle ne succomba pas. Arriva le 31 décembre 1849 et le moment où l'on s'embrasse, mais Eugénie protesta que chez elle, cela ne se faisait pas. Alors Louis tenta de piéger sa proie par une invitation à dîner, en compagnie de la mère d'Eugénie et d'un comparse du prince, le lieu étant le pavillon de Combleval, tranquille et isolé. S'ensuivit une promenade dans le parc qui fut un désastre, Eugénie ayant exigé le bras du comparse en lieu et place de celui du prince. Les deux femmes ulcérées, Eugénie d'être considérée comme une maîtresse potentielle et sa mère d'être assimilée à une maquerelle, les deux femmes s'enfuirent se remettre de l'affront sur les bords du Rhin. Lorsqu'elles s'en revinrent à Paris, elles furent à nouveau invitées par le prince, qui offrit à Eugénie son ouvrage sur l'extinction du paupérisme. Et la lecture de l'essai fit ce que les assauts libidineux n'avaient pas réussi à obtenir. Eugénie fut intellectuellement séduite par l'imagination du prince, et quand le coup d'État survint, elle lui fit transmettre qu'en cas d'échec, elle mettait sa maigre fortune à sa disposition. Louis se retrouvait donc l'objet de soutien financier de deux femmes qui allaient être rivales. Il y eut d'innombrables échanges de courriers entre Louis-Napoléon qui citait Racine et multipliait les images poétiques, et Eugénie qui, elle, avec l'aide de Prosper Mérimée, prodiguait des conseils de gouvernance. Le 12 novembre, Eugénie et sa mère arrivaient à Fontainebleau parmi les invités au moyen d'un train spécial afin de participer à une chasse à cour qui vit la jeune femme éblouir l'assistance par sa témérité équestre. On lui remit le pied du cerf, honneur suprême. Le lendemain, en prévision de la Sainte Eugénie, elle reçut des fleurs ainsi que le cheval qu'elle avait monté. Le 21 novembre, par plébiscite massif de 7 824 189 oui contre 233 145 non, l'Empire était rétabli avec proclamation officielle le 1er décembre. Alors la comtesse-mère fit en sorte que sa fille obséda les pensées intimes de l'empereur au point que son désir physique apparaissait aux yeux de ses interlocuteurs qui le désignèrent du sobriquet de Sa Majesté l'Empereur. Amis auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, nous retrouverons Louis-Napoléon et Eugénie lors de notre prochaine rencontre. Comment va se passer le ménage à trois avec Ariette, la banquière du prétendant ?
Une manie de vieux garçon, moi j'ai pris l'habitude d'agrémenter ma solitude aux accents de cette chanson. Quand je pense à Fernande, je bande, je bande. Quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, là je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas. C'est cette mâle ritournelle, cette antienne virile qui retentit dans la guérite de la vaillante sentinelle. Quand je pense à Fernande, je bande, quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, là je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas. Afin de tromper son cafard, de voir la vie moins terne, tout en veillant sur sa lanterne, chante ainsi le gardien de phare. Quand je pense à Fernande, je bande, quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, là je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas. Après la prière du soir, comme il est un peu triste, chante ainsi le séminariste à genoux sur son reposoir. Quand je pense à Fernande, je bande, quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, là je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas. À l'étoile où j'étais venu pour ranimer la flamme, j'entendis ému jusqu'aux larmes la voix du soldat inconnu. Quand je pense à Fernande, je bande, quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, là je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas. Et je vais mettre un point final à ce chant salutaire en suggérant aux solitaires d'en faire un hymne national. Quand je pense à Fernande, je bande, quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, là je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas.